Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Bien sûr, dans la joie, dans la bonne humeur, hein, malgré que nous vivons dans un monde rempli de vicissitudes, nous savons que nous avons un Dieu qui est pleinement en contrôle et nous savons que nous avons un Dieu qui va ultimement manifester sa pleine gloire lorsqu'il reviendra en Christ Jésus pour juger les vivants et les morts, comme le dit si bien notre confession de foi. Alors ce matin, nous entamons le chapitre 6 de notre étude du livre de Daniel et nous lirons les 9 premiers versets, donc Daniel chapitre 6, versets 1 à 9, péricope que j'ai intitulé d'ailleurs « Deux royaumes en conflit ». Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Pauvre roi naïf, hein, qui s'est laissé littéralement enjôler par ses conseillers. Dès qu'on voit le nom de Daniel, bien sûr, on l'associe de facto à la fosse au lion. Hein? Et c'est bien sûr l'incident le plus connu de toute la vie du prophète Daniel. Et la façon dont la gueule des lions a été fermée donne aussi lieu à une belle confession de la part de Darius, confession d'ailleurs qu'on avait déjà rencontrée au début du livre, là, au verset 26. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » Donc, l'événement de ce matin survient au jour de Darius le Mède. C'est bien ce que nous lisons à la fin du chapitre 5, verset 30-31. « Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Alors là, on vient de changer de royaume. On vient de passer des Babyloniens aux Mèdes et aux Perses. Nous avons un nouveau roi et un nouveau royaume qui arrive sur la scène. On voit que les royaumes viennent et les royaumes vont, mais Daniel, lui, Daniel qui est le symbole même du royaume de Dieu, lui, il demeure. Hein? Il a vu Nebuchadnezzar, il a vu passer Belshazzar qui sont venus et qui s'en sont allés, et maintenant, c'est au tour de Darius. Pour sa part, que fait Daniel? Ben, il est toujours au service du roi des rois d'abord, hein, avant d'être au service du roi humain. Que voyons-nous? Que nous enseigne ce texte? Ben, nous lisons au verset 1 que Daniel était l'un des 3 gouverneurs promus à la tête des 120 satrapes établis par Darius. Il y a 2 thèmes qui se dégagent de ce texte-là. Le premier d'abord, c'est l'insécurité de toute monarchie. Quelle est la raison pour l'établissement des gouverneurs? Ben, elle se révèle dans la crainte du roi. Le roi a peur d'être joué par ses collaborateurs et par ses conseillers. Il ne leur fait pas trop confiance, voyez-vous. Nous lisons au verset 2, « Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ses satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. » Alors, il s'est dit, « Je ne prendrai pas de risque avec mes satrapes et mes conseillers. Je vais établir des chefs dessus et ils vont les surveiller étroitement. » Alors, à l'époque comme aujourd'hui, les positions publiques servaient davantage aux intérêts personnels qu'à ceux du public, hein? Et parmi ces officiers-là, il y en a un qui sort de la masse. Daniel sort manifestement du groupe. Au verset 3, nous lisons « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Donc, ce qui nous frappe immédiatement, c'est que Daniel, encore une fois, s'avère à être un homme différent. Tant et tellement que Darius s'en rend compte, hein, et Darius, à l'instar des rois du royaume précédent, voit en lui ce serviteur du Dieu des Juifs. Il voit en lui le seul homme en qui il peut vraiment avoir confiance, et ce, en dépit des protestations de l'entourage qui s'en méfiait et qui le décriait, n'est-ce pas, comme on lit au verset 13, qui le décrit comme l'un des captifs de Juda susceptible de fomenter une rébellion. Voilà donc pour le premier thème qui se dégage de ce texte-là. Le deuxième thème qui se dégage du texte, c'est le suivant, c'est le perpétuel conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Royaume de lumière, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et ça, chers amis, on le voit depuis la chute même. Alors que Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Et on sait qu'ultimement, la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. C'est la victoire que le Christ Jésus nous a acquise à la croix. Et ici, ce conflit présente les lois de ces deux royaumes. Nous avons la loi irrévocable des Mèdes et des Perses, hein, utilisés par des gens de mauvaise foi qui tentent de contrer les lois du royaume de Dieu par lequel le juste est ultimement justifié. Nous lisons verset 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors, ultimement, la loi de Dieu va triompher de la loi supposément irrévocable des Mèdes et des Perses. Donc, le témoignage de Daniel, ici encore, ne manque pas d'être inspirant. Daniel, vous savez, au moment de ces incidents-là que nous avons dans le texte de ce matin, il n'est plus un jeuneau, là. Ce n'est plus un jeune premier. Il devait avoir quelque chose entre 70 et 80 ans. Et on le voit encore servir avec force et servir avec intégrité. Voyez-vous, les années n'ont pas fait d'érosion, ne sont pas venues éroder sa consécration au Dieu vivant. Et c'est un contraste avec Darius. Darius, âgé d'à peine 62 ans, qui, malgré toute la sagesse du monde, vit la plus grande insécurité dans l'exercice de son autorité, alors qu'il craint, et à juste titre, n'est-ce pas, d'être dupé par ses propres conseillers. Voyez, depuis le début de sa captivité, Daniel a fait face à des vagues successives d'attaques et pourtant, sa fidélité en Dieu n'a jamais défailli. Et elle a été attaquée, cette fidélité-là, mais jamais il n'a fait faux bond à son Dieu. Et dans ce chapitre, nous assistons à un dernier assaut de l'ennemi. Et cela, ça nous sert de rappel. Ça nous sert de rappel que les tentations du compromis ne sont jamais des incidents isolés dans notre marche spirituelle, mais s'inscrivent dans la stratégie globale de Satan, notre ennemi, contre nous. Et c'est ce que nous retrouvons ultimement, d'ailleurs, dans la vie du Seigneur Jésus. Nous devons, chers amis, être bien au fait de cette réalité-là. Combien de chrétiens se méprennent à cet effet? Combien de chrétiens croient que, bon, ils ont maintenant certaines victoires et que ces victoires-là ont fait retraiter l'ennemi à jamais, ils baissent leur garde et ils deviennent ainsi des proies faciles. Mon deuxième point, l'hostilité du monde. L'expérience de Daniel va exactement dans le sens de ce qui est caractéristique de la vie chrétienne. Et encore ici, on a un avant-goût de la vie du Christ Jésus. Finalement, il faut réaliser que dans la vie du Seigneur, sa plus grande tentation est survenue vers la fin de son pèlerinage spirituel, si vous me permettez, et non pas au début, hein. On a souvent tendance à penser que nos plus grandes épreuves ou encore nos plus grandes tentations surviennent au premier stage de notre, ou au premier stade, devrais-je dire, de notre expérience chrétienne. Et une telle perception ne saisit pas les fonctions principales de la tentation dans le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu vise à nous affermir et à nous fortifier à travers nos expériences de résistance, et ainsi à nous rendre capables de faire face à des tests plus grands et plus persistants dans le futur. Alors Dieu commence par des petites tentations, ensuite des tentations moyennes et ensuite des grandes tentations afin de développer de plus en plus notre musculature spirituelle. Et c'est bien ce que nous voyons dans la vie de tous les héros de la foi, là, dont les victoires sont cataloguées dans ce merveilleux chapitre qu'on appelle la galerie de la foi, Hébreux chapitre 11. Bien sûr que pour ces gens-là, leur vie n'était pas uniquement là une obéissance et une marche rectiligne, hein. Ils ont parfois titubé, ils ont parfois chuté, mais ils se sont toujours relevés et ont marché avec persévérance. Une autre caractéristique de cette nouvelle manifestation d'hostilité contre le royaume de Dieu, c'est la manière, c'est la ruse, c'est la malice dont font preuve les gouverneurs et les satrapes, et ça fait ressortir encore davantage l'intégrité du caractère de Daniel. L'estime de Darius à l'endroit de Daniel était de notoriété publique. C'était tellement connu qu'il considérait même l'élever au rang de premier ministre, et ça, ça génère la panique parmi les satrapes. Nous lisons au verset 3, « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Et c'est ainsi que, comme ça se fait encore couramment de nos jours, n'est-ce pas, dans les campagnes électorales, qui ne consistent qu'à détruire la réputation de l'adversaire plutôt qu'à présenter des programmes, ben voilà que les gouverneurs et les satrapes, c'est une maladie qui s'attrape, si vous me passez le jeu de mots facile, tentent de trouver des failles chez Daniel, tentent de trouver des manquements susceptibles de le disqualifier pour un office dans le royaume de Darius. Mais ça a été en vain. Nous lisons verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ils en viennent alors à la conclusion, à la seule conclusion, que la seule manière de lui faire du tort serait de fomenter un conflit entre la loi du pays et la loi du Dieu de Daniel. Et ils ne tardèrent pas à passer à l'action, et ainsi à duper ce pauvre Darius. Versets 5 et 6. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ils veulent sans doute l'impressionner avec le nombre, avec le bruit, plutôt qu'avec leur absence d'intégrité. Hein? Et ce n'est pas sans nous rappeler l'agir d'Hérode en relation avec le Seigneur Jésus, alors que nous avons cette citation extraordinaire, percutante, du psaume 2, citée dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 25-27. « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, en effet contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Et on sait que Dieu est au ciel et qu'il se rit de toutes ces collusions des peuples contre lui. Nous avons ici un avant-goût de cela avec les gouverneurs et les satrapes dans leur opposition à Daniel. Daniel, l'homme que Dieu avait si manifestement oint de l'esprit de sagesse. Alors, toute leur jalousie, les uns envers les autres, fut oubliée pour un temps et ils canalisent leur jalousie respective dans une jalousie commune qu'ils nourrissaient à l'égard de Daniel. C'est dire que l'esprit de parti fait place à l'esprit d'unité, fait place à l'unité dans cette cause qui leur était commune. Daniel devient absolument, là, inconditionnellement, l'homme à abattre. Et ça m'amène à mon troisième point, la perversité de la tentation. Ces hommes-là, hein, les satrapes, les conseillers, les chaldéens, les magiciens, les astrologues, font montre d'une ruse et d'une duplicité absolument remarquables. Quand on parle de génie ici, nous sommes en place de gens géniaux, hein, mais un génie pour le mal. Premièrement, ils mentent dans leur présentation des chiffres. Nous lisons au verset 7, « Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Est-ce que c'est vrai que ce sont là tous les chefs, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs? Pas tout à fait, hein? Il y a une importante inexactitude dans ce « tous-là ». Ils étaient bien conscients que la personne la plus importante, aux yeux de Darius, avait été absente des discussions. D'ailleurs, ça aurait été bien, hein, que Darius fasse montre de bon sens, de courage, et qu'il demande, écoutez les gars, j'apprécie là, votre désir de m'honorer, mais attendez une minute là, qu'est-ce que Daniel en pense de tout cela? Mais au lieu de cela, il se laisse bêtement entraîner dans la manigance. Hein? Ses gouverneurs et ses satrapes savaient pertinemment bien qu'il y avait un prix que Daniel ne paierait pas pour sa loyauté au roi. Il était prêt à être fidèle au roi Darius, mais pas au prix de sa fidélité au roi des rois, au Dieu Tout-Puissant. Il ne mettrait jamais, au grand jamais, sa consécration à Dieu de côté. Chers amis, qu'en est-il de nous qui professons la même foi que Daniel? Qu'en est-il de nous lorsqu'il y a une occasion d'un gain, par exemple? Lorsque nous sommes devant une tentation très forte de donner libre cours à quelque passion que ce soit, est-ce qu'on se dit, de toute manière, Dieu va me pardonner après, ou c'est pas si grave que ça? Ça fait, Daniel aurait pu dire, ça fait quand même 70-80 ans que je suis fidèle, même si je fais un petit soubresaut ici, écoute, ça va passer dans le lot. Non, Daniel ne fera aucun compromis quant à sa loyauté au Dieu éternel. Donc, ces satrapes-là connaissaient leur homme. Ils connaissaient aussi leur roi, et il savait comment acheter l'intérêt du roi. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Quelle vile et basse manipulation! Il l'assure de son unique et exclusive position de pouvoir, alors que pendant tout ce temps-là, il l'utilise comme une vulgaire marionnette pour accomplir leur dessein. Il nous faut ici tirer deux importantes leçons de cette situation. Premièrement, en dernière analyse, l'opposition à Dieu ne peut jamais être cohéremment honnête. Ceux et celles qui s'opposent à Dieu, malgré leur air de sincérité, malgré leur allure de vierge offensée, cachent toujours quelque chose de répréhensible. Il y a toujours dans leur intervention un agenda, un élément de mensonge, puisque ça repose sur le principe de l'auto-mensonge. Comme nous dit Romains, chapitre 1, verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Et ça, chers amis, ça vaut pour tous les discours de notre société. Ça vaut pour le discours présent sur l'euthanasie. Ça vaut pour le discours présent sur l'avortement. Ça vaut pour le discours présent sur la pseudo-libéralisation des mœurs. Ça vaut pour le discours présent sur la redéfinition du mariage. Ça vaut pour le discours présent sur la confusion des genres. Et encore, et encore, et encore. Ça vaut pour tous les mensonges qui ont cours dans ce monde et que le monde avale, n'est-ce pas, même si le mouton est parfois gros. Deuxièmement, il ne nous faut pas perdre de vue le fait que ce conflit-là, dans la vie de Daniel, conflit d'ailleurs qui va le conduire à la fosse aux lions, hein, ce n'est que l'expression d'un plus grand conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et Jésus n'a pas manqué de mettre les siens en garde quant à cette réalité-là, alors qu'il les prévient qu'ils seront haïs du monde. Jean chapitre 15, verset 18-19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » N'espérons pas, n'attendons pas que l'Église soit au premier rang et qu'elle reçoive, n'est-ce pas, les éloges de la société et que nous, en tant que croyants, lorsque nous prenons position clairement pour le royaume de Dieu dans une situation précise, à ce que les hommes nous applaudissent. Si vous recherchez l'amour du monde, oubliez l'amour de Dieu. Nous aurons d'ailleurs d'autres indices à cet effet-là. Au chapitre 7 et 12 du livre de Daniel que nous verrons ultérieurement. La fosse aux lions, vous savez, dans laquelle on jette Daniel, ce n'est que l'instrument de celui qui rôde, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, hein, chapitre 5, verset 8, ce n'est donc que l'instrument de celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il parle de l'ennemi juré de notre Dieu, à savoir le diable, qui est loin, n'est-ce pas, d'être ce petit personnage qui a pratiquement l'air sympathique, de couleur verte aux yeux rouges, avec de belles petites oreilles, une grande queue et une fourche pointée. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. D'ailleurs, on retrouve des clauses semblables dans plusieurs codes de loi du Proche-Orient ancien. L'une des caractéristiques de la loi des Mèdes et des Perses, c'est qu'elle était irrévocable. Et on retrouve une clause semblable dans plusieurs codes de loi du Proche-Orient. D'ailleurs, c'était comme cela. Hein? Il en était ainsi dans le fabuleux code d'Amourabi. Voilà qu'emporté donc par l'ivresse de l'honneur que prétendaient lui faire ses gouverneurs et ses satrapes, Darius signe le décret irrévocable. Versets 8 et 9. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Le roi, là-dessus, le roi Darius, écrivit le décret et la défense. Voilà que termine l'émission de ce matin. Elle se termine sur une note inquiétante, hein, à moins que nous ne connaissions le récit, parce qu'on sait quelle va être la suite. Daniel va être conduit, passez-moi l'expression, tout de go à la fosse aux lions. Et nous en parlerons lors de notre prochaine émission. Mais entre-temps, l'émission qui se termine d'aujourd'hui vous sera représentée en rediffusion, ou vous sera présentée en rediffusion cet après-midi à 14h. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je nous souhaite l'intégrité de Daniel. Je nous souhaite sa persévérance. Je nous souhaite son amour pour la vérité et pour le véritable Dieu. Si vous désirez nous écrire, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, G1H2S5. Notre adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station, foifm.com, téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 88-688-0506. Pour le reste de la province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Alors, encore une fois, c'était plaisant de passer ce petit moment ensemble et j'espère que ça vous aide à bien amorcer votre journée que je vous espère tout en grâce et en bénédiction avec une saveur céleste. Et je vous convie, comme à l'habituel, à la prochaine. À bientôt, chers amis.